Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 9 mai 2019. Eric Manirakiza et Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres.
En Afrique du Sud, selon les résultats partiels, l'ANC arrive en tête des législatives et provinciales, mais avec un score en net recul.
Les députés togolais ont adopté la limite des mandats présidentiels. Fornia Singbe pourra se représenter jusqu'en 2025.
Les autorités locales du nord du Nigeria ont annoncé la division en 5 de l'émirat de Kano.
Reprise des négociations commerciales à Washington entre les États-Unis et la Chine.
Et juste après le journal, l'actualité économique et les sports.
L'ANC arrive largement en tête des élections législatives et provinciales en Afrique du Sud selon les résultats partiels. Conservant la majorité, l'ancien mouvement de la lutte contre l'apartheid devrait toutefois obtenir un score historiquement bas. Le point avec Patricia Huon à Johannesburg.
Le Congrès national africain, l'ANC, conserve comme prévu sa majorité au Parlement. Le décompte des votes est toujours en cours. Avec un peu plus de la moitié des suffrages comptabilisés, l'ANC obtient 56% des voix. C'est le score le plus faible jamais obtenu par le parti pour une élection nationale depuis son arrivée au pouvoir en 1994. L'ANC limite les dégâts. Il n'a pas essuyé non plus le revers prévu dans la province du Gauteng, qui comprend la ville de Johannesburg et la capitale Pretoria. Mais ce résultat reste un coup dur pour Cyril Ramaphosa. Le renouveau promis par le président n'aura pas suffi à enrayer la chute de l'ancien mouvement de la lutte contre l'apartheid. L'opposition continue de grignoter son électorat sans pour autant effectuer des percées. L'Alliance démocratique obtient un peu plus de 22% des voix, le même score qu'en 2014. Et le parti de Julius Malema, les combattants pour la liberté économique, obtient 9% et s'impose comme la troisième force politique du pays. Patricia Huon, Johannesburg, VOA Afrique.
Au Togo, les députés ont voté hier soir une révision constitutionnelle qui prévoit la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2, mais permet au président Fornia Singbe de se représenter aux 2 prochains scrutins. Ekiabadou.
La réforme constitutionnelle a été approuvée lors d'un vote à bulletin secret par 90 députés présents sur 91. Le projet de révision est adopté s'il est voté à la majorité des 4 cinquièmes, soit 73 députés. Les 2/3 des membres du Parlement appartiennent au parti au pouvoir. La principale coalition de l'opposition avait boycotté les législatives en décembre dernier. Selon le nouveau texte, le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. La nouvelle loi instaure également un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours contre un seul actuellement pour élire le président. Fornia Singbe, au pouvoir depuis 2005, a été réélu depuis dans des scrutins qui ont toujours été contestés par l'opposition. Par ailleurs, les élections des conseillers municipaux se tiendront le 30 juin. C'est une première car le Togo n'a pas tenu d'élections locales depuis 1987.
Les autorités locales du nord du Nigeria ont annoncé la division 5 de l'émirat de Kano, réduisant ainsi les pouvoirs d'un influent émir, adversaire redouté des musulmans conservateurs. Mohamedou Sanusi II, qui était gouverneur de la banque centrale avant sa nomination en 2014, n'hésite pas à remettre en question les traditions. Il avait notamment critiqué la polygamie et les familles nombreuses dans l'incapacité d'élever leurs enfants.
Un navire militaire italien a secouru 36 migrants au large de la Libye. Le patrouilleur a croisé une embarcation à 75 000 nautiques des côtes libyennes. L'embarcation prenait l'eau et les personnes à bord, parmi lesquelles 2 femmes et 8 enfants, étaient en danger de mort, a précisé la marine, disant avoir pris les migrants conformément au droit international. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a prévenu qu'il ne laisserait pas ces personnes débarquer en Italie.
Dans le Nord Kivu, en RDC, un agent congolais de l'équipe de riposte contre la fièvre Ebola a été assassiné à Vuovi dans la nuit du 7 au 8 mai, indique le ministère de la Santé. En février, un infirmier avait été enlevé et tué par des hommes armés dans cette zone. La 10e épidémie d'Ebola sur le sol congolais a été déclarée le 1er août 2018 en Ituri et au Nord Kivu. Depuis, il y a eu 1069 décès et 442 personnes guéries, tandis que 267 cas suspects sont en cours d'examen, selon les autorités sanitaires.
Le Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme, basé au Kenya, a accordé un don sur 2 ans de 38 millions de dollars au Tchad, a annoncé Tina Andraser, la directrice régionale d'AIDSPAN pour l'Afrique centrale. Cette subvention doit notamment permettre d'accroître le nombre de traitements antirétroviraux et de traiter les femmes enceintes séropositives, a-t-elle indiqué lors d'une conférence de presse en N'Djamena, au Tchad. 110 000 personnes vivent avec le virus et 5 800 autres sont infectées chaque année, selon l'ONU SIDA.
Des véhicules et du matériel agricole appartenant à l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe vont être vendus aux enchères pour éponger la dette d'une de ses fermes réclamée par un créancier, selon une annonce de Ruby Auctions. Parmi les véhicules proposés figurent notamment 4 gros pick-up, une berline Mercedes, des moissonneuses batteuses, 10 tracteurs et un bulldozer. Monsieur Mugabe possède plusieurs domaines agricoles, dont la laiterie Gushungo, en violation de la loi qui interdit de posséder plus d'une ferme.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, les négociations commerciales doivent reprendre ce jeudi entre les États-Unis et la Chine, alors que les deux puissances se menacent mutuellement de nouvelles mesures protectionnistes. Le point avec Raissa Gironde.
Le vice-premier ministre Léo Rhe fera face aujourd'hui à son homologue Robert Lighthizer, représentant américain au commerce, pour cette session de tractation qui doit se poursuivre jusqu'à demain vendredi. Il y a quelques jours encore, elle était présentée comme la dernière avant un sommet destiné à sceller un accord historique entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping. Hier, le président Trump a annoncé dans un tweet que le vice-premier ministre chinois venait pour conclure un accord. L'administration américaine avait affirmé que Beijing était revenu sur ses principaux engagements, ce qui a été aussitôt démenti par le porte-parole chinois du ministère du Commerce. Les économistes et les institutions financières comme le Fonds monétaire international ont prévenu qu'un conflit commercial prolongé entre les États-Unis et la Chine constitue une menace pour la croissance mondiale.
Le pape François a dévoilé une législation obligeant les membres du clergé à signaler tout soupçon d'agression sexuelle ou de harcèlement et toute couverture de ces faits par la hiérarchie. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Dans sa lettre intitulée « Vous êtes la lumière du monde », le pape François oblige tous les diocèses à mettre en place, d'ici un an, un système accessible au public pour dénoncer les abus sexuels. Selon la nouvelle législation, ces cas seront examinés dans un délai de 90 jours. Le souverain pontife a néanmoins souhaité que le secret de la confession demeure absolu, ce qui exclut une dénonciation de faits rapportés par un fidèle dans le confessionnal. Le texte condamne toute violence sexuelle en mettant l'accent sur celle faite à l'égard des mineurs et des personnes vulnérables. Le pape rappelle aussi qu'il est interdit de produire, détenir et distribuer par voie informatique du matériel pédopornographique. Il a précisé que la hiérarchie de l'Église est aussi condamnable en cas d'action visant à interférer ou à empêcher des enquêtes civiles, canoniques, administratives ou pénales à l'encontre d'un religieux. Cette nouvelle législation ne comporte cependant aucune obligation de signalement aux autorités judiciaires, sauf si les lois du pays rendent cela obligatoire.
Au Venezuela, le député d'opposition Richard Blanco et soutien au soulèvement manqué du 30 avril mené par l'opposant Juan Guaido s'est réfugié aujourd'hui dans la résidence de l'ambassadeur d'Argentine à Caracas. La Cour suprême a inculpé de haute trahison, conspiration et rébellion civile, dit député d'opposition. L'Assemblée constituante, composée uniquement de partisans du président socialiste Nicolas Maduro, a levé l'immunité de 7 de ses députés.
Au Royaume-Uni, le dirigeant du parti travailliste, Jeremy Corbyn, a averti les électeurs eurosceptiques qu'il risquait un Brexit à la Donald Trump, qui provoquerait un choc économique menaçant des industries entières. Lançant sa campagne pour les élections européennes, M. Corbyn a invité les partisans d'une sortie sans accord de l'Union européenne à bien réfléchir. Les sondages donnent le parti du Brexit récemment créé gagnant du scrutin du 23 mai prochain.
Le porte-avions américain USS Abraham Lincoln a traversé aujourd'hui le canal de Suez pour se diriger vers le Golfe. Ce déploiement intervient sur fond d'escalade des tensions diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran. Le Pentagone a également annoncé le 7 mai dépêcher plusieurs bombardiers B-52 dans le Golfe. Téhéran avait répondu qu'il pourrait réagir en annonçant des mesures de réciprocité. Au-delà de cette escalade sur le terrain militaire, Washington a encore durci mercredi ses sanctions économiques contre le régime islamiste. Et de son côté, l'Iran s'est affranchi de deux engagements pris dans le cadre de l'accord sur son programme nucléaire.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
En RDC, le ministère des Mines a approuvé le rachat du projet de cuivre Kalongwe par la compagnie chinoise Tianjin Mining pour plus de 78 millions de dollars. La mine Kalongwe, détenue à 85% par Nzuri Copper, devrait produire sur 8 ans une moyenne annuelle de 18 657 tonnes de cuivre et 1 370 tonnes de cobalt. En Angola, le président Lourenço a limogé le PDG de la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale. Carlos Saturnino est remplacé par Gaspar Martins, déjà au conseil d'administration. Depuis plusieurs jours, une grave pénurie d'essence paralyse le deuxième producteur de pétrole du continent. La Namibie veut mobiliser environ 40 millions de dollars en faveur des fermiers de la sécheresse. Les personnes affectées recevront une assistance alimentaire, des tanks d'eau et des facilités pour leurs activités. Les fermiers percevront des subventions et auront de l'aide pour l'organisation des récoltes. Terminons avec la firme londonienne Adevco qui s'engage à investir 3 millions de dollars dans l'agro-industrie au profit de la société sierra-léonaise Tradin Organic. Cela permettra à Tradin Organic de s'approvisionner en cacao durant les récoltes auprès de 20 000 agriculteurs. Adevco espère connecter près de 6 000 petits producteurs de cacao au marché pour des revenus globaux de 550 000 dollars en Sierra Leone.
Et on passe directement à la page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric et bonsoir à tous.
De remontada britannique et la presse salue le miracle réalisé hier par Tottenham en Ligue des Champions après Liverpool.
Oui Eric, vraiment c'était trop. C'était comme une hallucination du nord de Londres provoquée par les vapeurs de l'alcool. Écrit The Guardian, ils se sont sortis les tripes. Là il ne s'agit plus d'argent, il s'agit de gloire et Pochettino le sait. Ces joueurs l'ont incarné, poursuit le journal. Le Daily Mail a qualifié cet incroyable retournement de situation de second miracle. Après la qualification de Liverpool mardi à Anfield aux dépens de Barcelone, en face, le coup est dur pour les Néerlandais. Déception, peut-on lire ainsi à la une du quotidien de Telegraph. Le compte de fait se termine pour l'Ajax sur le chemin de la finale, estime Volkskrant, parlant d'un tsunami d'attaque de Tottenham qui a déferlé sur la défense néerlandaise. Tottenham a renversé l'Ajax 3 de Amsterdam après sa défaite 1-0 à domicile à l'aller. En finale, les Spurs feront face aux Reds de Liverpool le 1er juin à Madrid.
Et on connaîtra aussi les finalistes de la Ligue Europa ce soir.
Oui, après sa victoire 3-1 face à Valence, Arsenal doit finir le travail en Espagne. En plus de leur avantage comptable, les Gunners sont d'autant plus motivés qu'une victoire en Ligue Europa représente leur meilleure chance d'accéder à la Ligue des Champions l'an prochain. En championnat, les Londoniens sont en effet distancés de 3 points par Tottenham dans la bataille pour la dernière place qualificative pour la C1 à une journée de la fin. Dans l'autre match de la soirée, Chelsea part avec un petit avantage du fait du but inscrit à l'aller sur le terrain de Francfort.
On risque d'avoir une autre finale britannique.
Absolument.
À 100%.
Absolument.
Et les playoffs qui touchent à leur fin ici aux États-Unis en NBA, Milwaukee est en finale de la conférence Est.
Oui, Eric, Milwaukee s'est qualifié en battant pour la quatrième fois Boston sur le score sans appel de 116 à 91. Les Bucks se sont imposés 4-1 face aux Celtics. Ils disputeront leur première finale de conférence depuis 2001 face à Toronto ou Philadelphie. La franchise canadienne mène 3-2 avant le match numéro 6 qui aura lieu ce soir sur le parquet des Sixers. À l'ouest, Golden State a perdu Kevin Durant sur blessure, mais s'est tout de même imposé face à Houston 105 à 99. Les doubles champions en titre mènent 3-2 et peuvent atteindre en 4-1 demain à Houston, la finale de conférence ouest pour la 5e année consécutive.
C'était l'espoir de Yacouba Ouendraogo et à demain.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza et Nathalie Barge en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
Les députés togolais ont voté hier soir une révision constitutionnelle prévoyant la limitation du nombre de mandats présidentiels, mais qui permet à l'actuel président Faure Gnassingbé de se représenter en 2020 et en 2025. Cette révision constitutionnelle suffira-t-elle à décrisper la tension politique actuelle au Togo? Abdelrahman Dia a posé la question à Gilbert Bawara, membre du gouvernement et du parti au pouvoir, l'Union pour la République.
Il faut saluer cette importante réforme politique et constitutionnelle qui contribue non seulement à la consolidation de l'état de droit et au renforcement de la démocratie, mais qui est également de nature à favoriser le renforcement de la décrispation et de l'apaisement du climat politique et social.
Donc effectivement, il y a la limitation du nombre de mandats et le second tour qui est également maintenant une réalité, ce qui était une demande de l'opposition. Vous pensez que ça suffira à contribuer à la décrispation du climat politique?
Maintenant, il s'agit de voir quels étaient les vrais objectifs de certains acteurs politiques et de certaines organisations dites de la société civile. Si la finalité était de contribuer à améliorer la démocratie, à faire avancer l'état de droit au Togo, à faire en sorte qu'un certain nombre de règles est appliqué dans d'autres pays, la limitation des mandats, le mode de scrutin, une cour constitutionnelle représentative de différentes forces politiques et sociales. Si c'était ça l'objectif et la finalité que poursuivaient certains acteurs politiques, à partir de ce moment-là, on ne devrait plus avoir de remous et puis les réformes qui ont été adoptées devraient plutôt être saluées, soutenues.
Mais Monsieur le ministre, l'opposition demandait tout de même que le président ne se représente pas aux élections, car ayant déjà fait 14 ans au pouvoir.
Vous savez, je disais que les réformes constitutionnelles qui viennent d'être opérées sont le fruit d'un consensus. Parce que toutes les initiatives qu'il y a eu ces dernières années, qu'il s'agisse des différents cadres de dialogue et de concertation, les recommandations qui en étaient issues, qu'il s'agisse des travaux de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation ou des recommandations du Haut Conseil de la Commission pour la Réconciliation Nationale. Et toutes ces initiatives-là avaient une quintessence que les Togolais souhaitaient la limitation des mandats présidentiels et la modification du mode de scrutin, non pas pour cibler un individu ou un concitoyen particulier, mais de manière générale. Et ensuite, cette réforme est en adéquation avec les principes généraux du droit et la jurisprudence qu'on a connue au Sénégal, au Burkina Faso, en France. Et cette jurisprudence et ces principes généraux du droit disent et stipulent qu'une réforme dispose pour l'avenir. C'est pourquoi ce débat-là, c'est un débat plutôt dogmatique.
Gilbert Bawara, du parti au pouvoir au Togo, joint à Lomé.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée nigériane a interdit la circulation des mototaxis dans la région du Nord-Ouest. Cette mesure vise à éliminer le banditisme, les enlèvements et d'autres activités criminelles dans cet État. Kaduna, Kano, Kebbi, Katsina, Sokoto, Zamfara et l'État du Niger. La décision des autorités militaires passe très mal chez les conducteurs de mototaxis et les utilisateurs. Voici un reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Roulant sur les trottoirs et entre les voitures, empruntant des sens interdits et transportant parfois une famille entière, les mototaxis restent un moyen de transport incontournable au Nigeria. La capitale fédérale Abuja n'est pas épargnée. Ils servent de moyens de transport rapide pour les populations de ces banlieues. L'armée nigériane tente désormais d'interdire l'utilisation du mototaxi dans sept États du Nord-Ouest. Les autorités militaires expliquent que la mesure vise à lutter contre l'insécurité grandissante au Nigeria. Mais les conducteurs de mototaxis ou okada qui gagnent péniblement leur vie en transportant des passagers dans des embouteillages légendaires et dans des villages estiment que la décision est inacceptable. Mohamed Azigma est le président du syndicat des transporteurs de mototaxis à Lugbe, une banlieue d'Abuja.
Si le gouvernement veut interdire les mototaxis dans ces états, il doit d'abord trouver un moyen pour aider ceux qui seront affectés afin de pouvoir nourrir leur famille. Mais si rien n'est prévu pour aider ces gens, que vont-ils faire pour se prendre en charge?
Okada est un moyen de survie pour nous et nos familles, affirme Mustafa Haruna Aliou, conducteur de mototaxi.
Mais pour quelles raisons? Comment je vais manger si c'est moi et comment m'occuper de mes enfants? J'ai 4 enfants et une femme. Pas de travail. Avant, j'étais un vendeur à l'école primaire de Lugbe. Mais le même gouvernement nous a dit de quitter. Ils ont ramassé ma marchandise. Ils nous ont chassés. Donc, c'est pour cela que je suis allé acheter une moto.
Pour Stevie Oluwafemi, qui emprunte tous les matins au Kada pour se rendre à son lieu de travail, les populations des États affectés auront d'énormes difficultés sans ces moyens de transport rapides et moins coûteux.
Ils seront sérieusement affectés parce que nous avons des problèmes chaque jour dans nos lieux de travail. Lorsque vous êtes en retard, vous avez des problèmes. Donc vous voyez à quoi il faut s'attendre. Il y aura plus de problèmes pour eux. Et dans certains cas, beaucoup vont perdre leurs emplois et cela n'est pas bien.
Selon les autorités, 70% des criminels utilisent des mototaxis ces dernières années au Nigeria pour perpétrer des assassinats dans les parties nord-est et nord-ouest du pays où sévit le groupe des combattants de Boko Haram. Cependant, Stanley Chukuma pense que les autorités doivent envisager d'autres mesures.
Le gouvernement doit envisager d'autres mesures concrètes, des mesures qui pourront mieux les aider et laisser ces gens tranquilles. Ils ne sont pas responsables de ce qui se passe. Le gouvernement sait ce qui se passe et refuse de trouver une solution. Ils doivent trouver une solution et laisser les conducteurs de mototaxis tranquilles parce que ce sont ces gens qui assistent les populations.
Les lois déjà en vigueur, comme le port des casques de sécurité et l'interdiction de conduire en sens interdit, ne sont ni appliquées ni respectées par les conducteurs de mototaxis. On estime à plusieurs millions de jeunes Nigérians et certains d'entre eux des diplômés sans emploi qui font le transport à mototaxi. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Morgane Guiriec en votre compagnie. Cette semaine dans Washington Forum, les élections générales en Afrique du Sud. La nation arc-en-ciel doit élire ses députés au Parlement et ses représentants dans les 9 assemblées provinciales mercredi. Le président Cyril Ramaphosa a de grandes chances d'être reconduit car la victoire de l'ANC, parti qui a mis fin à l'apartheid, est quasi assurée. Mais les défis auxquels devront faire face les vainqueurs sont de taille. L'économie sud-africaine se porte mal, le chômage dépasse les 27%, et les inégalités sont parmi les plus criantes au monde. Au plan politique, l'ANC est déjà fragilisée par des scandales de corruption et divisée. On en discute ce jeudi à 19h, temps universel.
La population d'Ogao dans le nord du Mali est confrontée à des températures qui avoisinent les 50 degrés. En plein ramadan, pour les musulmans de la région, c'est le calvaire. En plus de la chaleur accablante, ils sont contraints de supporter le manque d'eau et d'électricité et la hausse des prix sur le marché. D'Ogao, la correspondance de Boubacar Touré.
Les fidèles musulmans qui ont entamé leur carême, certains déjà le dimanche 5 mai dernier, d'autres le lundi, vivent dans des conditions pénibles. À ces fortes températures qui vacillent entre 47 à 50 degrés à l'ombre, s'ajoutent les coupures d'électricité et le manque criard d'eau à certains endroits, comme le témoignent les personnes interrogées dans la ville de Gao.
Moi d'abord, je suis dans un quartier qu'on appelle Al-Jannabanja, un quartier très 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 difficile. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité. Et nous, ça nous fait près d'un mois que les robinets ne coulent pas. Il faut faire de la gymnastique tous les jours avec des bidons, des seaux d'eau. Les femmes, les enfants, tout le monde. Il faut courir par-ci, par-là, pour avoir un petit seau d'eau, rien que pour préparer à manger.
Le mois de Ramadan, nous le recevons comme ce sont les règles de Dieu. Nous sommes obligés de supporter. Sinon, vraiment, c'est avec très grande souffrance parce qu'il fait très chaud à Gao. Et le malheur encore, avec les coupures de courant, le manque d'eau, qui vraiment, ça nous préoccupe sérieusement. La pomme de terre de 500 francs, c'est revenu à 600. Le poisson qu'on croyait que ça allait mieux, c'est la même chose. Et c'est tous les produits. Généralement, à Gao, ça a toujours été comme ça. On attend jusqu'au mois de carême pour augmenter, pour avoir le million. Alors que ce mois, c'est pas pour cela.
Le mois de carême, c'est un mois béni par Allah le Tout-Puissant. Et tous les musulmans qui sont en parfaite santé doivent le faire, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah. Donc les gens vivent dans des conditions très très difficiles, à savoir la chaleur. Là où nous sommes présentement, nous sommes à 47 degrés Celsius. Bien vrai que nous sommes en train de chercher des choses pour qu'on puisse trouver l'au-delà. Vraiment, ce n'est pas du tout facile. Les gens sont dans les mosquées et il y a coupure d'électricité, donc on ne parvient même pas à véhiculer le message d'Allah comme il le faut. Donc tout ça, c'est des problèmes auxquels les musulmans sont confrontés ici à Gao.
On remercie le bon Dieu, on a commencé le mois de carême, mais on a commencé ça avec le plus difficile vraiment parce qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau. Donc maintenant, nous, on a que le flot seulement. On passe toute la journée au flot, mais on est obligé parce que nous sommes des musulmans. Donc on va tout confiance au bon Dieu, Inch'Allah, ça va aller.
Le mois béni de Ramadan où les fidèles musulmans doivent s'abstenir de boire et de manger du lever au coucher du soleil est une occasion pour les musulmans de Gao, de prier en faveur de la paix et de la sécurité au Mali. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le New York Times rapporte que le président Donald Trump a déclaré au Service national des impôts des pertes de 1,2 milliard de dollars pour ne pas payer d'impôts sur le revenu sur plusieurs années. Les démocrates réclament depuis longtemps les déclarations de revenus de M. Trump. Sur le front judiciaire aussi, il n'y a aucun répit depuis la publication du rapport Mueller. Le point avec Lionel Gaïma.
Le New York Times rapporte qu'entre 1985 et 1994, les entreprises de Trump ont perdu 1,2 milliard de dollars, plus que tout autre contribuable américain. Cela lui a évité de payer d'impôts pendant au moins 8 ans. Rudy Merbani du Centre Brennan pour la justice.
Peut-être que ses fiches d'impôts pourraient montrer qu'il n'est pas aussi riche qu'il le prétend, ce qui contredirait l'un de ses principaux arguments lorsqu'il battait campagne pour la présidence.
Les démocrates réclament depuis longtemps les déclarations d'impôts de Trump pour voir s'il y a conflit d'intérêts dans ses relations avec les entreprises étrangères ou s'il a triché. Monsieur Trump a toujours refusé.
Ils veulent connaître chaque transaction que j'ai menée.
Maintenant, je suppose que Mueller, pour 35 millions de dollars, a vérifié mes impôts et mes finances qui, soit dit en passant, sont excellents.
Mercredi, une autre bataille s'est ouverte. Les démocrates de la Chambre cherchent à condamner William Barr, le ministre de la Justice. Il a refusé de fournir le rapport non expurgé du procureur spécial sur une prétendue ingérence de la Russie dans l'élection de 2016 et une possible entrave à la justice de la part du président américain. Jerry Nadler, président de la commission judiciaire de la Chambre.
Nous y sommes maintenant. Nous sommes en pleine crise constitutionnelle.
La Maison-Blanche a bloqué le vote en affirmant le privilège de l'exécutif. Pour des démocrates, le président peut dissimuler certaines informations sensibles au public. Tout cela peut conduire à une nouvelle bataille juridique prolongée. Todd Belt de l'Université George Washington.
Chaque fois que nous arrivons à de pareilles situations, la confiance au gouvernement baisse. Et les gens voient que le gouvernement se bat en son sein. Au lieu de servir la population, alors que nous nous dirigeons vers une élection présidentielle.
Les refus de Trump de se conformer aux assignations à comparaître du Congrès ont multiplié les appels à la destitution. Mardi, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a même accusé le président de pousser les démocrates à entamer une procédure de destitution afin de consolider sa base.
C'est la fin de cette édition à la mise en onde Wojtek Hightech. À la console, Josèle Morissin à la mise en onde, à la console Wojtek Hightech. Ainsi va le monde aujourd'hui.